demande donc à Patrick Sahan de nous faire sa présentation sur séduction et sexualité.
J'ai travaillé au Sénégal dans le projet que Yannick a présenté ce matin et avec les chercheurs que sont Abderrahmane et Marie-Thérèse Arcans. Je vais parler aujourd'hui, enfin à la suite d'ailleurs, qui rejoint un peu ce que la précédente présentation de la séduction et de la sexualité. C'est vrai que ça peut paraître hors propos de parler de séduction quand il s'agit de mortalité maternelle ou de planification familiale de manière générale, mais il semble que les relations de couple mettent en jeu un certain nombre de choses, des tensions, des conflits, des expériences individuelles et collectives qui nous poussent en fait à nous intéresser à cette question de la séduction. Le rapport à soi d'abord, mais le rapport à autrui aussi. La séduction est définie, pour reprendre un peu une définition de Rochefort, comme la métaphore du désir, l'apprentissage et la ritualisation des hiérarchies entre le masculin et le féminin, mais elle relève aussi des formes de socialisation, de la sexualité, de l'érotisme, de l'amour et tout simplement de la rencontre, parce qu'on ne peut pas séduire quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on n'aura pas rencontré. Et en fait, parler donc de séduction pose la complexité du problème de la problématique de la planification familiale de manière générale. Et donc, il est vrai que dans notre étude, l'entrée était l'offre contraceptive au Sénégal, mais en fait, nous avons pu saisir à partir de cette entrée des éléments plus généraux sur le rapport au corps, sur les influences socialisatrices, la religion et les médias notamment, et surtout les pères aussi. La sexualité s'apprend au contact avec les pères. Nous avons aussi pu analyser la construction de la sexualité et des sentiments. Pour ce faire, nous avons bien évidemment utilisé la même méthodologie que celle utilisée dans les autres pays qui étaient concernés par l'étude, à savoir le Ghana, le Burkina et le Mali. Nous avons travaillé donc dans deux régions du Sénégal, Kaolack et Dakar, qui, à notre sens, sont des villes qui connaissent des dynamiques rurales assez fortes, Dakar étant la capitale du Sénégal, où qui concentre plus pas mal d'infrastructures, qui connaît aussi beaucoup de migrations à la fois internes et externes, et qui font que tout ceci pouvant donc influencer les pratiques des individus. Dans chacune de ces villes, nous avons travaillé en milieu rural et en milieu urbain, bien évidemment. Donc à Dakar, nous avons travaillé à la Médina, à Pikine et à Rufisque, tandis qu'à Kaolack, nous avons travaillé dans les quartiers de Medina Bay et Kaznak et dans une communauté rurale qui s'appelle Mjebel. 36 femmes et 36 hommes âgés de 15 à 70 ans ont été interrogés et les informations que nous avons pu recueillir nous ont permis de travailler aussi sur l'offre de services en matière de planification familiale. Ainsi, l'ONG ASBEF, le Centre de protection maternelle et infantile de la Médina, le marché Tilène, les lieux où sont installés les tradis praticiens ont été, de différentes nationalités d'ailleurs, ont été investigués. Nous avons pu aussi, donc, dans ce cas-là, mener des séries d'observations et des enquêtes, des entretiens avec, au sein de ces structures et auprès de ces tradis praticiens. Il y a eu aussi des dessins d'enfants dans deux écoles primaires, une à la Médina et une deuxième à Kaolack. Ceci étant dit sur la méthodologie, j'axerai donc mon propos sur trois points. Je commencerai par parler de la découverte de la sexualité. Ensuite, j'aborderai la question de la séduction pour terminer un peu sur le rapport entre séduction et planification familiale. Il a été évoqué tout à l'heure par ma collègue le fait que la planification ou la sexualité s'est découvrée au contact avec les pères. Mais en fait, il ressort des entretiens que nous avons menés au Sénégal que l'identité féminine et masculine se construit d'abord autour d'événements qui agissent comme des points de rupture dans la vie des individus. Ces points de rupture les font basculer dans des structures de vue plus complexes, passage à l'âge adulte, situations douloureuses et traumatisantes parfois, par exemple des cas de circoncision ou d'excision, surtout chez les femmes, enfin plus douloureuses et plus traumatisantes pour les femmes. Parfois aussi des situations pas facilement avouables comme les avortements, les viols ou quelquefois des rapports, un premier rapport sexuel dans des conditions assez douloureuses. Ces événements marquants donc sont aussi un moyen pour les individus de découvrir leur corps, mais aussi d'expérimenter leur sexualité. Bien évidemment, la sexualité n'est pas découverte de la même manière selon les événements, selon les âges, selon les individus. Certains l'ont découvert avant le mariage, particulièrement en milieu urbain où la sexualité est de plus en plus précoce. Chez les jeunes hommes, par exemple, il s'agit de satisfaire sa curiosité. On aura entendu que nos copains ont une expérience sexuelle, il faut qu'on le fasse. Et surtout, ça se passe quand il s'agit de ses premiers rapports sexuels, de filles avec laquelle on habite, ça peut être une bonne ou une vacancière, et donc, voilà. Les propos des jeunes adultes que nous avons rencontrés, c'était de dire que leur premier rapport sexuel, c'était avec une bonne ou avec une vacancière. D'autres, qualifiés de plus traditionnalistes, entre guillemets, par les intervieweurs eux-mêmes, sont ceux qui ont découvert la sexualité avec le mariage. La religion étant parfois évoquée par ces personnes pour justifier l'inactivité sexuelle avant le mariage. Certaines femmes aussi soutiennent que la virginité est une chose importante et c'est pour cela qu'il est important de se préserver jusqu'à la virginité. Opinion qui est partagée d'ailleurs par certains hommes, comme celui-ci qui affirmait que c'est un honneur de découvrir sa femme avec la virginité. L'éducation sexuelle dans nos contextes est plutôt rare. Donc, ce sont au cours de discussions entre groupes d'âge que s'échangent les expériences de corps, de rapport à l'autre, les bonnes expériences, les techniques et outils de séduction sont partagés avec les pères, particulièrement chez les femmes, ce qui m'amène à parler des relations de couple, des manières de lit et jeux de séduction. Dans les processus de construction identitaire en cours dans la société sénégalaise, un certain nombre d'attributs sont donnés aux femmes dès les premiers moments de la socialisation pour que sa féminité s'affirme. Il apparaît que dans le jeu des relations hommes et femmes, la femme doit être douce, coquette, faussement pudique, mais disponible à la sollicitation masculine. Une injonction à séduire est donc lancée aux femmes depuis leur jeune âge, mais surtout à l'adolescence. Il ne s'agit pas pour autant de codifier des arts de plaire qui peuvent varier, je l'ai dit tantôt, selon des milieux sociaux et des âges, mais d'attribuer à la séduction une fonction sociale comme mode identitaire et relationnel. La séduction est définie comme l'essence de la femme et apparaît comme indispensable à la mise en scène de la féminité. Les femmes trop masculines sont stigmatisées et critiquées. Une femme, même quand elle marche vite dans la rue, on lui rappelle qu'elle est une femme et qu'elle doit marcher de manière posée. D'ailleurs, les femmes, un peu, cette séduction aussi passe par un ensemble de stratégies. Comme en témoignent les propos de cette dame, on utilise des bonbons en embrassant nos maris pour qu'ils nous aiment davantage. C'est facile de se faire aimer par son mari. Il faut savoir prendre soin de lui en lui parlant calmement, lui donner à manger, ne pas avoir le visage fermé. S'il est amateur de thé ou café, il faut lui en préparer quand il en a envie. L'homme est facile à dompter si tu es tendre avec lui. Les femmes sont assez inventives et n'hésitent pas à utiliser toutes sortes d'artifices avant et pendant les rapports sexuels. Les hommes recourent de plus en plus aux aphrodisiaques comme le ngorokeng et le viagra, mais pour les femmes, il s'agit d'utiliser, par exemple, les cubes du mot qui permettent, selon les femmes, de mettre du piment dans les relations sexuelles, mais aussi ça permet d'arrondir les fesses. Les expériences se racontent et s'échangent que ce soit des méthodes contraceptives ou des objets de plaisir, et les retrouvailles entre copines et autres groupes de sociabilité sont le lieu d'échange et de partage d'expériences, ainsi que le moyen d'être informé des dernières ceintures de perles à vendre, en vente au marché, genre Dibidramé, qui est du nom d'un chanteur malien qui est toujours bien drapé de trucs, et donc il y a des ceintures de perles à son nom, des lingeries fines, et c'est aussi là que se discutent des méthodes contraceptives. Mais c'est là aussi que se discutent les positions qui, autour desquelles s'est développé un vocabulaire assez spécifique pour décrire, pour les décrire. Par exemple, quand on parle de fellation masculine, dans le discours caché, c'est le biberon. L'usage de certains mots témoigne de la dynamique de la vie sexuelle. Certains termes paraissent dépassés parce que souvent c'est vrai qu'on parlait de langue fraîche, par exemple, pour désigner le fait d'embrasser avec la langue, mais cela est réduit à langue qui désigne aussi une scène, une arène. Donc la relation sexuelle s'inscrit dans un environnement plus large. Ceci nous fait penser à la manière dont se construit socialement la relation amoureuse, finalement. Un jeune homme nous disait, pour moi, la base de la relation, c'est les rapports sexuels. Si je sors avec une fille pendant un certain temps sans accéder à elle, je me dis qu'elle va découvrir mes défauts. Et puis, on n'aura rien à se dire. On va parler que de futilité. C'est pourquoi je fonce dès le premier jour qu'il me rend visite. Si jusqu'à la quatrième tentative, elle refuse que je la touche, je la plaque. Même la femme la plus complexée au monde, si tu as un rapport sexuel avec elle, une fois le complexe diminue, vous n'avez plus, la honte disparaît. En matière de sexualité, certaines notions sont de plus en plus utilisées. Particulièrement en milieu urbain et chez les jeunes adultes, les notions de bonheur et de plaisir apparaissent et il est défini d'un point de vue émique comme quelque chose qui relève du ressenti, d'un sentiment fort produit au contact de l'être aimé. Une dame que nous avions interviewée nous disait « Je ne pense pas qu'il existe une grande différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir peut être les sensations qu'on perçoit en matière d'amour. Le plaisir, c'est très proche du bonheur. Il y a des jours où on est très content et ça, c'est du plaisir. » Ces nouvelles conceptions de la relation sexuelle sont influencées par les parcours et trajectoires de vie, les médias et particulièrement les telenovelas. Elles estiment que les jeunes adultes veulent expérimenter ce qu'ils voient à la télé. Il est vrai que les telenovelas ont participé à décomplexer les formes de séduction et permettent souvent des dialogues entre les générations autour de sujets tabous comme la sexualité. Mais pour d'autres, ils ont contribué à décomplexer le sexe. Il apparaît qu'une certaine évolution des mentalités, particulièrement en milieu urbain, peut être notée, surtout en matière de perception de la relation sexuelle. Elle n'est pas plus seulement à visée reproductive, mais elle est source de bonheur et de plaisir. Selon les personnes interrogées, la notion de plaisir est centrale et synonyme de sexualité sans limite. La relation sexuelle semble être vécue comme le moment de toutes les libertés, même si les pratiques sont normalisées selon les âges et les milieux. Chez les adultes et en milieu rural, par exemple, la référence à la religion pour légitimer toute pratique qui s'écarterait de la norme est importante. Dans l'islam, on dit que tu peux disposer de ta femme quand tu veux et faire l'amour quand tu veux avec elle, et inversement, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se comporter comme des animaux. Tout est permis, sauf le rapport anal, s'est-on entendu dire. Ou encore, tu vois des gens qui font l'amour sous la lumière. Or, le rapport sexuel doit se faire en toute discrétion. Pour certains d'ailleurs, ce sont ces pratiques jugées déviantes qui expliqueraient les malformations chez certains enfants ou encore les pratiques déviantes que l'on voit, les agresseurs et autres bandits que vous voyez, c'est parce que les gens font l'amour partout, sur les tables des marchés, dans les voitures, partout, et c'est ça qui gâte la société, nous a-t-on dit. dans les manières de lit, tout comme les artifices, la temporalité est importante. La séduction se joue sur le temps. Les femmes et les hommes usent de codes que leurs partenaires doivent être capables de saisir. La séduction, c'est tout le temps, du matin au soir. Ça va de la couleur du drap, blanc si on est enclin à faire l'amour par exemple, à la manière de recevoir la personne. Quand tu arrives et que tu vois que ta femme est propre, que le lit est fait, tu peux penser que tu vas avoir droit à un bon moment. De même, la manière de poser le dîner, de servir le thé, doivent te renseigner sur la disponibilité de la femme. Et toi, tu dois répondre par des compliments, des petits gestes de tendresse, etc. Les célibataires, hommes aussi, s'y mettent quand il s'agit de recevoir leur copine. J'ai une copine, si elle me dit qu'elle passe ce soir à 17h, la chambre est déjà faite. Elle est propre, je mets de l'encens et tout. Je m'interdis de fumer dedans et de m'asseoir sur le lit avant son arrivée. Quelquefois, elle me laisse attendre jusqu'à 21h, 22h, donc je suis à bloc quand elle arrive. À cela s'ajoutent aussi des éléments physiques qui sont apparents dans la séduction et qui jouent beaucoup parce qu'on a aussi interrogé les gens sur ce qu'était la femme et l'homme idéal pour eux. Et la plupart des femmes interrogées mettaient en relief leur sein dans le jeu de la séduction et préfèrent souvent des hommes forts, c'est-à-dire des hommes de grande taille et musclés. Certains hommes, par contre, se laissent séduire par un bon derrière. Les grosses fesses, qui se dit en Wolof, bar ginnaw ou de nububa, une bonne poitrine et des grosses fesses. Il semble, pour revenir un peu sur ce qui est sur la séduction et la planification familiale, les hommes souhaiteraient voir les femmes ignorantes, entre guillemets, et occupées à aimer et éventuellement éduquer, émanciper, tout en gardant leur féminité et leur vocation première d'épouse et de mère. Franchement, j'ai deux femmes, nous disait un homme. L'une, elle me plaît beaucoup parce qu'elle a de la classe. Avoir de la classe, c'est être propre, avoir des bonnes manières. Une femme sans classe, c'est celle qui est vulgaire, qui se comporte mal. L'autre est très belle physiquement et c'est ça qui m'attire chez elle. C'est celle qui a de la classe qui m'accompagne dans les cérémonies. Cela pour dire en fait que la sexualité, le rôle de la femme, en fait que la séduction est abordée en référence avec la morale religieuse par exemple. Les femmes trop séductrices sont à la fois désirées et condamnées. Elles sont souvent traitées de prostituées. La prostituée étant celle avec qui la sexualité s'évoque ouvertement. Et la contrainte, en fait, que l'on voit quand il s'agit de relations de couple et de relations de genre, c'est que, en matière de planification familiale, il apparaît que ce qui est proposé comme méthode moderne de planification familiale a du mal à trouver sa place dans le cadre de la relation, dans l'arsenal de la séduction. Donc, les femmes préféreraient utiliser des méthodes de contraception traditionnelles parce que tout simplement, elles sont plus cachées, elles sont plus faciles à utiliser. Il s'agit généralement de face. Le face, c'est un gris-gris avec des petits bouts de bois que l'on peut attacher à sa ceinture de perles ou des safaras, c'est-à-dire des bains qui sont délivrés par des guérisseurs et qui peuvent s'utiliser donc en toute discrétion parce que pouvant faire partie de l'arsenal de séduction sans que l'homme ne pose de questions. Pour finir, en fait, sur cette question de la séduction et de la sexualité, je voudrais dire, en fait, qu'il faut lire la question de la sexualité aussi en rapport avec les dynamiques économiques et sociales qui sont en cours dans les sociétés. Il s'agit en fait de plus en plus, la séduction prend place aussi dans la dans la marchandisation des rapports de sexe entre les hommes et les femmes. Il est vrai que l'argent occupe une place centrale dans les rapports entre les hommes et les femmes, et donc il y a une économie de la séduction qui se développe et qui passe comme des stratégies entre hommes et femmes pour capter des ressources. Je vous remercie de votre attention.